Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez réussi à venir jusqu'à nous sans perturbation sur la route. Je ne sais pas exactement ce qu'il en est n'ayant pas ce problème actuellement. Nous continuons ce matin notre série sur l'Épître aux Éphésiens. Et je ne sais pas où vous en êtes dans votre propre étude de l'Épître aux Éphésiens. C'est un petit speech que je fais régulièrement aux jeunes et je me permets de vous le faire aussi maintenant, mais je crois que c'est tellement important de pouvoir saisir l'occasion lorsque nous avons des séries comme nous en avons actuellement sur l'Épître aux Éphésiens, de saisir cette occasion pour étudier personnellement le livre que nous partageons ensemble pendant les prédications du dimanche. Nous avons maintenant, il me semble que en tout cas nous aurons 8 prédications sur cet épître, mais je vous garantis que ce n'est pas suffisant pour saisir toute la richesse de l'Épître aux Éphésiens. À chaque fois que je me plonge dedans, j'ai presque l'impression de me noyer en voyant la densité et la profondeur de ce que Paul nous partage. Et je pense que ce serait terrible si, à la fin de cette série, votre conclusion serait « Ah, c'est bon, maintenant je maîtrise cette partie de la Bible, l'Épître aux Éphésiens, il n'y a plus de secret pour moi. » Ce serait passer à côté de vraiment la profondeur de ce que Paul nous partage. Ça m'a interpellé avec le groupe de jeunes. À chaque début d'année, on a des votes et les jeunes s'expriment pour savoir quel livre on va étudier. Et quelqu'un a proposé le livre de la Genèse. Et d'autres ont rétorqué, mais c'est bon, nous on a vu la Genèse aux ateliers bibliques, donc on connaît la Genèse, pas besoin de revoir ça. Je suis sûr que l'enseignement était très bien aux ateliers bibliques. Je suis sûr que les enseignements aux ateliers bibliques n'étaient pas suffisants pour saisir toute la Genèse. Et il en est de même pour notre étude de l'Épître aux Éphésiens. Il est essentiel de pouvoir soi-même profiter pendant la semaine de se plonger dedans et d'aller plus en profondeur personnellement. J'imagine que Fanny ou Stéphane ne me contrediront pas, mais quand on enseigne un instrument, et ça me faisait penser au cours de basse que je donnais à une époque. Il y a toujours des élèves qui viennent juste au cours de basse, dans mon cas, et qui n'ont pas touché leur instrument pendant la semaine. En général, on peut leur donner les meilleurs conseils, on peut avoir le meilleur temps de cours pendant cette demi-heure ou cette heure qu'on a ensemble. Sur le long terme, il n'y aura pas vraiment de progrès. Et c'est un petit peu pareil avec nous dans notre vie. Si on veut voir des progrès dans notre vie chrétienne, on a besoin d'avoir plus que simplement la prédication du dimanche, le temps que nous avons ensemble, mais de pouvoir tout au long de notre semaine, de diverses manières, nous plonger dans la volonté de Dieu, dans sa parole, pour pouvoir voir des progrès dans notre vie. Je vois un peu le temps que nous avons le dimanche matin, un peu comme le repas du dimanche midi. Souvent, je ne sais pas comment c'est dans votre famille, mais c'est souvent un repas riche qu'on apprécie et qu'on prend du temps et on en profite. Mais ça n'enlève pas la nécessité de se nourrir tout au long de la semaine. Et je crois que c'est un peu pareil pour les temps que nous avons ensemble le dimanche matin. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui? Ça va, je suis pas trop dur dès le matin comme ça. Mais je crois que c'est particulièrement le cas aussi avec le passage qu'on va voir ce matin dans vos feuilles de culte qui avaient marqué Éphésiens 4, verset 17, jusqu'au chapitre 5, verset 20. Je me suis plongé dans ce passage-là et je me suis dit, c'est sûr, si on veut pouvoir manger ce midi, il faudra se réduire un petit peu parce qu'on ne va pas pouvoir voir tout le chapitre ensemble. On va même se concentrer sur 12 versets en particulier, chapitre 5, verset 8 à 20. Et précisément, je ferai des références à d'autres versets qui correspondent à ces deux chapitres, chapitre 4 et 5. Mais si vous voulez vraiment lire et méditer sur ces deux chapitres, ça vaudra le coup pour vous d'y retourner personnellement. Alors avant de lire ces versets du chapitre 5, verset 8 au verset 20, je voudrais prier. Seigneur, nous avons besoin d'être éclairés par toi. Nous avons besoin que tu viennes par ton esprit toucher nos cœurs et que tu puisses nous transformer, nous édifier par ta parole, Seigneur. Nous avons besoin que ta lumière vienne briller dans nos cœurs pour que nous puissions briller de ta lumière, Seigneur. Amen. Alors nous lisons en Éphésiens 5 à partir du verset 8. Autrefois, en effet, Vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur et ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres, mais plutôt dévoilez-les. En effet, ce qu'ils font en secret, il est choquant même d'en parler. Mais tout cela, une fois dévoilé, est rendu manifeste par la lumière. Car tout ce qui devient manifeste est lumière, c'est pourquoi elle dit « Réveille-toi, toi qui dors, relève-toi d'entre les morts, et le Christ t'illuminera. » Veillez donc avec soin à la façon dont vous vous comportez, que ce ne soit pas comme des fous, mais comme des sages. Rachetez le temps, car les jours sont mauvais. Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom du Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Amen. Alors le premier verset de ce texte est quand même plutôt agréable pour démarrer. Il nous dit que vous êtes des lumières. Peut-être que vous en étiez convaincu et vous pouvez dire à votre voisin, tu vois, je te l'avais dit, je suis une lumière. Peut-être que vous en étiez moins convaincu et ça fait peut-être plaisir de l'entendre de la bouche, si je puis dire, de Paul. Mais c'est ce qu'il nous dit. Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière. Et en quoi consiste cette lumière? Est-ce que c'est notre intelligence, notre grande beauté, peut-être même notre beauté intérieure? Alors je crois qu'il précise justement dans ces deux premiers versets quelle est la source de cette lumière et à quoi ressemble cette lumière. Paul nous dit « Autrefois, en effet, vous étiez ténèbres, mais maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Donc on voit dès le début que cette lumière est d'abord cette lumière que nous avons dans le Seigneur, en tant qu'enfants du Seigneur. Et à quoi ressemble cette lumière? Il nous a dit que c'est de pratiquer toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Et c'est de ça que je voudrais qu'on puisse parler ce matin. À la fois, quelle est la source de cette lumière? À quoi ressemble cette lumière? Quel est le fruit de la lumière? Et enfin, comment porter du fruit? Comment porter le fruit de cette lumière? Donc, quelle est la source de la lumière? À quoi ressemble le fruit de cette lumière? Et comment porter du fruit de cette lumière? Alors d'abord la source. Et je pense que c'est important de voir que tout au long de la Bible, il y a tout un ensemble d'impératifs, mais nous n'avons jamais de liste de « fais pas ci, fais pas ça » sans qu'il y ait d'explication, sans que Dieu nous donne les raisons profondes de ces commandements qui nous sont donnés. À chaque fois, il nous révèle d'abord qui il est, qui nous sommes et quels sont ses plans pour nous, pour nous donner un cadre dans lequel on peut comprendre quels sont ses commandements. Même dans les 10 commandements, qui sont peut-être le centre de, si vous me permettez l'expression, du « fais pas ci, fais pas ça », Dieu commence avec « Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. » Avant de dire à son peuple comment agir, il leur rappelle « Souvenez-vous de qui je suis, souvenez-vous de ce que j'ai fait pour vous, souvenez-vous de ma bonté envers vous et des projets que j'ai pour vous. Et c'est dans ce cadre-là que je vous révèle ma volonté pour vous. » Et comme Jean-Paul l'a rappelé il y a 2 semaines, c'est particulièrement le cas dans l'Épître aux Éphésiens, que l'éthique chrétienne s'inscrit toujours dans la théologie, dans ses réalités profondes. Et Paul rend ça manifeste, où il donne les fondements, il nous révèle les choses profondes de l'Évangile, de Dieu, de qui nous sommes, avant de pouvoir nous présenter les conséquences pratiques. Dans l'Épître aux Éphésiens, il y a quelque chose de quasiment visuel, où les 3 premiers chapitres sont consacrés aux réalités fondamentales, à ce qu'on pourrait dire la doctrine, les réalités théologiques fondamentales, et les 3 suivants sont consacrés aux conséquences pratiques, à quoi ça ressemble dans nos vies. Et même dans ces chapitres 4, 5 et 6, qui sont plus pratiques, Paul continue de revenir à ce qui est fondamental, continue de nous rappeler les vérités qui sont le fondement des commandements qui nous sont donnés. Précisément, lorsqu'il nous dit de pratiquer la bonté, la vérité et la justice, il nous rappelle que c'est parce que nous sommes devenus des enfants de lumière que nous sommes devenus une nouvelle créature. Comme nous l'avons vu aussi précédemment, nous sommes devenus un homme nouveau. L'homme ancien est passé et nous sommes une nouvelle créature. Et c'est dans ce cadre-là que nous sommes appelés à vivre une vie nouvelle. Être chrétien, ce n'est pas juste gagner un ticket pour le paradis et essayer d'être gentil entre-temps. C'est bien plus profond que ça. C'est entrer dans une vie nouvelle, la vie de Christ en nous, dès maintenant et pour l'éternité. Et c'est parce que nous sommes passés des ténèbres à la lumière, c'est parce que nous sommes passés d'une vie centrée sur nous-mêmes à une vie renouvelée par la vie de Dieu, que nous sommes appelés à vivre différemment. Et je trouve très intéressant, particulièrement dans ces deux chapitres, la place que Paul donne à Dieu comme source de cette lumière. Régulièrement, quasiment, pas un verset sur deux, mais très régulièrement, on voit le Père, le Fils et le Saint-Esprit agir de chorale, si on peut dire, pour nous amener dans cette vie nouvelle, dans cette vie transformée. Pour donner des exemples, au chapitre 4, verset 20, Paul nous dit que nous avons appris Christ. Trois versets plus loin, il nous dit que nous devons être renouvelés par l'Esprit. Et au début du chapitre 5, il nous appelle à imiter le Père comme des enfants. Ce n'est pas un Dieu qui nous est présenté comme un Dieu qui nous laisserait un code de loi, comme un code civil devant notre porte et de nous dire « maintenant bon courage ». Non, ce n'est pas du tout ce qui nous est présenté. C'est au contraire un Dieu qui nous dit « mais je suis la source du changement dans votre vie ». Je suis la source de ces comportements renouvelés, de cette bonté, cette vérité et cette justice qui doit caractériser votre vie. Dieu se présente comme ce Père qui révèle sa volonté, comme ce Père qui envoie son Fils pour nous montrer à quoi ça ressemble et qui nous devons imiter. Et Dieu se présente aussi comme l'Esprit qui vient vivre en nous et qui vient nous équiper pour pouvoir vivre cette vie nouvelle. Dans cette période de Noël qui approche, ça rappelle un petit peu la différence qu'il y a entre un vrai sapin dans la forêt et les sapins de Noël que nous décorons. Si nous essayons de changer de vie et simplement faire tous nos efforts pour bien agir, je pense qu'on peut des fois ressembler un peu au sapin de Noël où on rajoute des guirlandes, on rajoute de la lumière, on rajoute toutes les décorations et c'est joli. Mais fondamentalement, on est coupé de la vie, on est déraciné. Et tôt ou tard, si vous vous amusez à laisser votre sapin comme ça dans votre salon d'année en année sans jamais lui faire revoir la terre, ça va de moins en moins ressembler à Noël dans votre salon. Et à l'inverse, si nous voulons vraiment vivre comme des beaux sapins, si je peux me permettre, nous avons besoin d'être plantés à la source, d'être dans la terre, de voir la lumière du jour et d'avoir cette eau qui nous vivifie. Nous avons besoin d'être connectés à ce Dieu qui donne la vie, qui est la source de cette lumière. Nous ne pouvons pas être des lumières sans être connectés à la source de cette lumière. Et donc à quoi ressemble cette lumière? Je reprends le verset 9 et 10. Car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur. Alors ces mots, comme bien souvent avec Paul, sont riches, denses, mais là, dans ce cas-là, à quoi ça ressemble de se comporter en toute bonté, vérité et justice? On n'est pas vraiment dans le très spécifique. Et il nous dit, sachez discerner, et on pourrait presque avoir l'impression d'être laissé à l'aventure pour discerner ce qui est bon, ce qui est juste et ce qui est vrai. Mais précisément, si nous voulons savoir à quoi ressemble le fruit de cette lumière, nous avons besoin d'écouter la parole dans son ensemble. Nous avons besoin de voir tout ce qui est révélé. Et je pense qu'il y a trois manières principales dont nous pouvons connaître ce fruit de la lumière. Pour connaître ce qui est bon de ce qui est mauvais, discerner entre ce qui est bon et ce qui est mauvais. D'abord, nous avons besoin de prendre au sérieux les commandements de Dieu, de lire la Bible et de voir ce qui nous est commandé. d'avoir la sagesse de Dieu et d'être à l'écoute de l'Esprit dans notre vie. Et premièrement, c'est d'abord d'être à l'écoute des commandements de Dieu dans sa parole. Et rien que dans ces chapitres, il y a toute une liste de choses très concrètes. Paul, dans ce passage-là, ne reste pas dans le général. Si je vous reprends juste quelques extraits du chapitre précédent, il nous dit « Rejetez donc le mensonge, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le voleur ne vole plus, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole malsaine, que toute amertume, animosité, colère, clameur, calomnie, ainsi que toute malfaisance soit enlevée du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, pleins d'une tendre bienveillance. » Paul et toute la Bible nous révèlent très concrètement à quoi ça ressemble de vivre ce fruit de lumière. Qu'est-ce que c'est la bonté, la vérité et la justice? Et parfois, je crois qu'on peut dire « Dieu, je veux connaître ta volonté, parle-moi !» Et puis on n'est pas forcément prêt à entendre ce qu'il nous a déjà dit. Des fois, on est à peu près sûr de ce que dit la Bible sur certains sujets, alors on voudrait que Dieu nous parle directement au cas où il aurait changé d'avis et que le nouvel avis sera un peu plus favorable en notre faveur. C'est un peu comme si on se disait et qu'on disait autour de nous « Je me prépare pour faire un marathon cette année, je vais faire un marathon. » Et si on nous demande « Mais qu'est-ce que tu fais pour te préparer pour ce marathon ?»« Ouais, je cours de temps en temps 20 minutes. Une fois par semaine, des fois une fois toutes les deux semaines. » Qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que cette personne va réussir à courir un marathon à la fin de l'année? Non, pas forcément. Je ne sais pas, vous n'avez pas l'air de vous être entraîné récemment à être clair sur ce qu'il faut faire pour courir un marathon. Mais si la personne en reste là et se dit « Non, mais je ne vais pas faire de recherche sur ce qu'il faut faire pour courir un marathon, je ne vais pas demander à un entraîneur, je ne vais pas savoir qu'est-ce qu'il faut faire pour préparer un marathon, je vais juste continuer à dire que je prévois de courir un marathon et courir de temps en temps 20 minutes. » Il est clair que l'objectif ne sera pas atteint. Et il est de même pour notre volonté de faire la volonté de Dieu. On peut vouloir obéir à Dieu. Mais si on ne se plonge pas dans la Bible, si on ne cherche pas à savoir ce qui nous est déjà révélé sur la volonté de Dieu pour savoir ce que ça implique de pouvoir faire sa volonté, c'est un objectif qui probablement ne portera pas beaucoup de fruits. Et des fois, simplement, si on lit un passage comme le sermon sur la montagne en Matthieu, les chapitres 5 au chapitre 7, rien que là, si on se plonge là-dedans, on a un entraînement bien plus intense que pour n'importe quel marathon. Et si on veut se dire « je veux faire la volonté de Dieu », il est bon de pouvoir se plonger dans des passages tels que celui-ci, Matthieu chapitre 5 à 7, pour se dire « mais oui, si je veux atteindre des objectifs, si je veux voir le fruit de lumière dans ma vie, ça va prendre de me concentrer et d'essayer de connaître la volonté de Dieu, de ce qui est déjà révélé dans ses commandements ». Et je crois qu'au-delà d'une liste de commandements, de choses qui sont bien et mal, Dieu nous invite à faire preuve de sagesse. Ce n'est pas forcément un concept hyper à la mode, mais je crois que dans la majorité des situations, la vie est plus complexe que ce qu'on peut appliquer avec une liste de règles. On a besoin d'avoir une sagesse qui nous permette de comprendre la volonté de Dieu au-delà d'une liste de règles. Et c'est ce que Paul nous dit au verset 10. « Sachez discerner ce qui est agréé du Seigneur. » Verset 17. « Ne soyez donc pas sans intelligence, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. » On a besoin d'exercer notre discernement et de méditer l'ensemble de la parole pour grandir dans cette sagesse qui vient de Dieu. C'est ce que nous voyons dans l'Ancien Testament, où il y a à la fois la loi de Moïse dans les premiers livres de l'Ancien Testament, mais il y a aussi les proverbes, il y a aussi le livre de Job, il y a aussi l'Ecclésiaste et toute cette sagesse que nous devons recevoir de Dieu pour savoir comment agir dans telle ou telle situation lorsque une liste de règles ne nous permet pas de savoir qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est juste dans ma situation. Je trouve qu'il y a un exemple dans le chapitre 4 des Éphésiens, lorsque Paul nous dit « Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas, que le soleil ne couche pas sur votre irritation. » Alors, je ne sais pas comment vous percevez cette phrase-là, mais d'une certaine manière, c'est étonnant qu'ils ne nous disent pas « ne vous mettez pas en colère ». Non, il nous dit, si vous vous mettez en colère, et on pourrait même dire, lorsque vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Et c'est pas, je ne crois pas que dans ce texte-là, c'est une forme de concession, dans un sens, bon, je sais bien que vous allez vous mettre en colère, mais faites attention. Non, c'est, vous êtes amené à vous mettre en colère, mais ne péchez pas. Et ça demande plus de sagesse qu'une simple règle de dire « aucune colère acceptée ». Et précisément, quand on voit Jésus se mettre en colère, ça nous rappelle qu'il y a des colères légitimes. Il y a parfois où nous avons besoin, et peut-être même plus souvent besoin de nous mettre en colère pour des choses justes. Quand nous voyons de l'injustice, quand nous voyons le péché et le fruit du péché, nous avons besoin d'avoir, ce que certains appellent des fois, une sainte colère. Je voyais cette citation, je n'ai pas vérifié si elle était véridique, mais j'ai vu cette citation d'Abraham Lincoln. « On ne connaît la grandeur d'un homme à ce qu'il met en colère. » Et je pense que c'est juste. Si on ne se met plus jamais en colère et qu'on tombe dans une forme de cynisme où tout est égal, on n'est pas dans la volonté de Dieu. À l'inverse, Paul nous rappelle que la colère peut être l'occasion de pécher et que toutes les colères ne sont pas saintes, loin de là. Et qu'on peut avoir l'impression d'avoir des justes colères qui en fait sont simplement du péché. Et là, il nous a rappelé que nous avons besoin d'une sagesse pour savoir discerner dans notre propre vie à quel moment nous sommes simplement en train de nous mettre en colère pour nous défouler sur le premier qui vient et à quel moment nous sommes en train d'exercer une juste colère parce que nous voulons nous opposer au mal et aux ténèbres. Et il y a tellement de situations dans nos vies où nous avons besoin de pouvoir grandir dans cette sagesse pour discerner réellement quelle est la volonté de Dieu. Et enfin, je crois que nous connaissons aussi quel est le fruit de cette lumière, qu'est-ce qui est juste et bon de faire, aussi par l'Esprit qui parle en nous. Dieu peut nous parler directement. C'était une question qui nous a été posée à Jean-Paul et à moi il y a quelques jours. Mais est-ce que Dieu parle, peut vraiment parler directement? Est-ce qu'il peut s'adresser à nous? Alors je pense, oui, que Dieu peut s'adresser à nous de diverses manières. Il peut le faire dans notre lecture de la parole, où certains textes vont comme jaillir à nous et nous parler spécifiquement dans telle ou telle circonstance. Il peut le faire au travers de frères et de sœurs qui peuvent avoir une parole pour nous de la part de Dieu. Il peut le faire en mettant une conviction profonde dans notre cœur. Dieu continue à parler. Et bien sûr, il faut être sensible au fait qu'il y a un risque de déséquilibre. Si je mets ce point-là en troisième et pas en premier, c'est que la manière normale et habituelle de Dieu de parler, c'est par la parole de Dieu, par la Bible, par la sagesse qui nous permet de faire grandir en nous au travers de la Bible. Et c'est important de commencer par là et que ce soit toujours une priorité dans nos vies. Et il y a un vrai risque de subjectivité lorsqu'il s'agit de dire que Dieu m'a parlé et il a répondu pour telle ou telle chose. Je suis parfois amusé, parfois agacé de voir le nombre de jeunes femmes chrétiennes qui me racontent le nombre de fois où des jeunes hommes chrétiens leur ont dit j'ai rêvé que de toi et du coup Dieu m'a dit qu'il fallait qu'on se marie. C'est amusant, et après un certain nombre de fois où on va d'église en église et on entend la même genre de discussion un certain nombre de fois, on s'inquiète pour déjà pour les chances de se marier, parce qu'en général ça marche pas très bien ce genre de démarche. Mais c'est vrai que lorsque ça nous tient à cœur, il y a une subjectivité, on n'est pas toujours les meilleurs juges pour savoir si Dieu nous a vraiment parlé, et qu'on a besoin de pouvoir d'abord s'ancrer sur la parole de Dieu. Mais il ne faut pas non plus tomber dans l'extrême inverse, à refuser à Dieu le droit de continuer à parler. Et il peut encore s'adresser à nous de diverses manières. Alors voilà, à quoi ressemble le fruit de la lumière? À quoi ressemble un comportement transformé qui correspond à la vie nouvelle que nous avons en Christ? Nous avons besoin de nous plonger dans la parole de Dieu pour connaître ses commandements, nous avons besoin de sa sagesse, et nous avons besoin de son esprit qui nous parle pour connaître sa volonté dans les situations diverses de notre vie. Mais disons que nous savons. Partons du principe que dans telle ou telle situation, nous savons qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qui est juste, qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est bon, qu'est-ce qu'il nous manque. Ben, la mise en pratique, exactement. Et des fois, il y a une distance entre les deux, je ne sais pas si vous avez remarqué. On peut savoir ce qui est bien de faire, et puis la mise en pratique ne correspond pas exactement à ce qu'on avait prévu. C'est un peu la distance entre les bonnes résolutions qu'on peut prendre en janvier et les réalités qui se passent au mois de février ou au mois de mars. Vous avez remarqué, souvent il y a un décalage. Enfin, c'est peut-être que moi, mais... Enfin, moi j'ai abandonné l'idée de faire des bonnes résolutions, mais... Il y a un décalage entre ce qu'on estime être bon et cette année, ça, ce sera bon pour moi, et puis ce qu'on met en pratique. C'est un peu la différence entre de se dire « Ce soir, je vais me coucher tôt, j'ai besoin de me reposer. » Et de se réveiller le lendemain matin en se disant « J'aurais vraiment dû ne pas regarder cet épisode en plus, j'aurais dû éteindre la télé plus tôt parce que ça n'est pas encore arrivé, je ne me suis toujours pas couché tôt. » Il y a un décalage entre ce qu'on estime être bon pour nous, et on a besoin de, comme je disais, d'être au maximum informé par Dieu pour savoir qu'est-ce qui est bon, mais au moment de mettre en pratique, on doit faire face à la triste réalité qu'on n'est pas toujours le maître de notre propre maison. Et on est parfois à subir ce qu'on fait plus qu'à le décider. Et Paul est aussi riche en enseignements de ce côté-là. Il n'est pas naïf sur le fait que simplement vouloir faire le bien nous amènerait à faire automatiquement le bien. Je vous relis le verset 18 du chapitre 5. « Ne vous enivrez pas de vin, il mène à la débauche. Au contraire, soyez remplis par l'Esprit. » Il nous rappelle, vous avez besoin d'être nourri de l'Esprit, rempli par l'Esprit, pour que ce soit lui qui vous amène à agir selon ce qui est bien, ce qui est vrai, ce qui est juste. Vous avez besoin de vous nourrir de l'intérieur pour pouvoir voir des changements à l'extérieur. Et il continue au verset 19. Parlez-vous par des cantiques, des hymnes et des chants spirituels. Chantez et célébrez le Seigneur de tout votre cœur. Rendez toujours grâce pour tout, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, à celui qui est Dieu et Père. Et c'est, à mon avis, un des aspects, et il y en a d'autres, mais un des aspects qui nous permettent d'être nourris et transformés de l'intérieur. Il fait toute une liste, mais on pourrait dire la louange, la reconnaissance, le fait de passer du temps à nous concentrer sur qui est Dieu, ce qu'il a fait, et ce que ça change pour nous, de se concentrer sur Dieu lui-même et sa grandeur. Et ça nous nourrit pour laisser de la place à l'Esprit, laisser de la place à Dieu dans nos vies pour voir une différence. Sans nous nourrir de ce qui est bon, on ne verra jamais de changement profond dans notre comportement. Paul dit ailleurs dans l'épître aux Philippiens, « Au reste, mes frères, que tout ce qui est vrai, tout ce qui est digne, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est moralement bon et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. » Nous avons besoin de nous nourrir de ce qui est bon et digne de louange. N'importe quel sportif le dira, on peut s'entraîner autant qu'on veut, si on ne s'alimente pas bien, on ne verra pas de progrès. On peut faire les efforts qu'on veut, si après l'effort, il n'y a pas une alimentation qui correspond à l'effort, alors le corps ne va simplement pas enregistrer les progrès qu'il devrait enregistrer. Et c'est pareil avec la vie chrétienne. On peut faire les efforts qu'on veut, on peut vouloir faire la volonté de Dieu, mais si on ne se nourrit pas de ce qui est bon, de ce qui correspond à qui est Dieu, si on ne laisse pas la place à l'Esprit dans nos vies pour nous nourrir, alors on ne verra pas de changement. On continuera à faire des efforts et on sera toujours plus frustré. Et c'est aussi dans ce sens-là que je me suis permis en introduction d'aborder la question de se nourrir tout au long de la semaine. C'est que si le culte du dimanche matin est notre seul repas de ce qui est bon, de ce qui est juste, ce qui correspond à la volonté de Dieu, alors nous ne pourrons pas grandir, nous ne verrons pas de changement dans nos comportements, nous ne pourrons pas répandre la lumière qui nous a été donnée. Et bien sûr, nos semaines sont ce qu'elles sont et le temps passe et on peut se faire happé, se faire manger tout notre temps libre et se dire mais où est passé mon temps, je n'ai pas eu d'occasion de me nourrir de ce qui aurait été bon pour moi. Et ce n'est pas une nouveauté, je crois que c'est particulièrement un défi pour nous aujourd'hui, mais ce n'est pas une nouveauté non plus. Ce que Paul nous dit, rachetez le temps, saisissez toutes les occasions, ne vous laissez pas voler votre temps, mais rachetez-le. Profitez de tout le temps que vous avez pour vous nourrir si vous voulez voir des changements dans votre vie. Et je crois que c'est un défi particulièrement pour notre époque, de se dire, mais qu'est-ce qui se passerait si la moitié du temps que je passe avec mon téléphone, avec la télé, avec Netflix et avec toute autre chose, je pouvais le consacrer à laisser plus de place à Dieu, ne serait-ce que la moitié? Quel changement je pourrais voir dans ma vie? Et ça n'a rien de simple parce que toutes ces choses sont conçues pour nous voler notre temps. Mais si nous pouvons racheter ce temps pour laisser de la place à Dieu, le laisser nous nourrir en profondeur et non pas le laisser en périphérie de nos vies, je crois que nous pourrons voir des changements dans nos vies. Non pas du jour au lendemain, on veut toujours des recettes magiques qui font que du jour au lendemain tout sera différent. Non, Dieu agit de manière progressive en nous, mais que nous puissions lui laisser la place pour qu'il fasse son œuvre et que nous puissions rayonner de sa lumière. Alors pour conclure, je voudrais vous lire les deux premiers versets du chapitre 5 de l'Épître aux Éphésiens. Imitez donc Dieu comme des enfants bien-aimés et vivez dans l'amour, tout comme le Christ aussi nous a aimés et s'est livré lui-même à Dieu pour nous en offrande et en sacrifice comme un parfum de bonne odeur. Si nous voulons vivre cette lumière, nous avons reçu un modèle, nous avons reçu le Fils de Dieu sur cette terre qui nous a montré la voie, qui à la fois a vécu une vie parfaitement juste, bonne et vraie. Et non seulement il nous a montré la voie, mais il est mort pour nous, il est ressuscité pour que nous puissions avoir la vie, pour que nous puissions être connectés à Dieu, pour que nous puissions recevoir cette lumière de Dieu et de pouvoir la répandre autour de nous. Alors que chaque jour, Dieu puisse faire de nous un peu plus des vrais chrétiens, dans le sens que nous puissions être toujours plus transformés par Christ dans nos vies, qu'il puisse être non seulement notre modèle, celui que nous voulons suivre, mais qu'il puisse être aussi celui qui nous permet d'être en communion à Dieu, de pouvoir recevoir sa lumière et de voir des beaux fruits de sa part. Alors je voudrais prier que Dieu nous vienne en aide dans toutes nos circonstances. Seigneur, merci parce que tu ne nous laisses pas seuls, comme si tu étais simplement notre juge face à nos faiblesses, mais tu es un Dieu qui vient nous rencontrer, qui vient nous transformer de l'intérieur, qui vient faire jaillir cette vie nouvelle, Seigneur, et permets-nous de te donner toute la place, de ne pas nous faire voler notre temps, mais de pouvoir avoir comme objectif de notre vie de pouvoir grandir et de te voir toujours plus agir en nous, à l'intérieur, pour que notre comportement et tout ce qui puisse jaillir à l'extérieur soit quelque chose qui te rende gloire et qui soit une bénédiction pour nous-mêmes et pour ceux qui nous entourent, Seigneur. Agis en nous pour ta gloire. Amen.